Investigation, Justine Katz.
Bonjour et bienvenue dans ce podcast de la cellule investigation de la RTBF. Aujourd'hui, on va parler de la multinationale belge Solvay. Ce géant de la chimie emploie 25 000 personnes dans plus de 60 pays. La chimie de Solvay, on la retrouve dans de nombreux objets de notre quotidien, dans nos vêtements, nos téléphones, nos voitures ou nos produits cosmétiques. L'entreprise revendique des produits plus sûrs, plus propres et plus durables. Mais derrière la success story se cache une pollution invisible. Une contamination au PFAS, des substances toxiques extrêmement persistantes dans l'environnement. En 2022, nous avons mené une grande enquête aux États-Unis et en Italie pour documenter cette pollution. Grâce à une collaboration inédite de plusieurs scientifiques belges, des analyses sanguines ont été réalisées sur une cinquantaine de riverains de l'usine Solvay de Spinetta Marengo en Italie. Les résultats sont interpellants. Alors, comment le dossier a-t-il évolué? Quel danger représentent ces produits chimiques éternels pour notre santé? Est-ce possible de les interdire? Un lobbying intense se joue en ce moment au niveau européen. On parlera de tout ça avec nos invités dans la deuxième partie de ce podcast. Mais on accueille d'abord Emmanuel Morimont. Vous avez réalisé cette enquête pour investigation. Une enquête sur Solvay, mais qui s'est faite sans Solvay, puisque l'entreprise a refusé pendant plusieurs mois toute interview.
Oui, l'enquête, elle a été diffusée au mois de septembre. Moi, les premiers contacts que j'ai eus avec l'entreprise, c'était au mois de février. J'ai envoyé plusieurs dizaines de mails. Et mes premières demandes, elles étaient assez simples. La première demande, c'était de découvrir l'envers du décor des usines de Solvay. À quoi servait la chimie de Solvay. Ma deuxième demande, c'était de pouvoir passer une journée avec la CEO, la patronne Ilham Kadri. Et la troisième demande, c'était une interview sur les enjeux environnementaux et les contaminations potentielles autour de certaines de leurs usines. C'était sans doute la demande de trop, donc ils ont refusé tout principe d'une interview. Et donc, nous, en tant que journalistes, il a fallu être créatifs pour trouver des moyens pour quand même poser nos questions. Donc, on a acheté une action pour aller à l'Assemblée Générale des Actionnaires, ce qui nous donnait le droit de poser une question et d'avoir le micro pour interpeller les patrons de Solvay.
On va entendre tout ça dans Solvay, la pollution invisible. C'est notre investigation du jour. Elle est signée Emmanuel Morimont, Santo Sevilla, Valérie Dupont et Amaury Boucher avec le soutien du Fonds pour le journalisme.
C'était le 10 mai 2022. 4 mois que je suis face à un mur. Des mails, des appels, rien. Pas d'interview. Aucune ouverture. Alors quand je franchis les portes de l'Assemblée Générale d'une multinationale, c'est pour rencontrer les patrons et obtenir des réponses. En fait, nous sommes quatre. Le caméraman, l'ingénieur du son, le réalisateur et moi, le journaliste. On a tous acheté une action. On entre séparément. On est juste relié par notre groupe WhatsApp. Et ça commence plutôt mal.
Il y a des flics partout. Ils fouillent les sacs. À l'entrée, il y a des gardes. Pour l'appareil photo, c'est mort.
Notre caméraman a déjà perdu son outil de travail. Je sens qu'on me suit du regard avec insistance. Dans la grande salle, on s'installe tous à des endroits différents.
Je suis grillé. Il y a deux malabars derrière lui.
Notre ingé son s'est fait repérer en sortant son smartphone. Je dois bien l'admettre, le plan était loin de se dérouler sans accroc. Et le directeur juridique de la multinationale va nous mettre un coup de pression supplémentaire.
Je vous précise qu'il est interdit de prendre des photos, de filmer ou d'enregistrer le déroulement de cette assemblée, y compris avec votre smartphone.
Cette société qui nous attendait de pied ferme, c'est un géant de la chimie. Il est belge et il s'appelle Solvay.
At Solvay, we care equally about the people and the planet.
Solvay est clairement une des plus anciennes multinationales au monde.
I believe in the people of Solvay. I believe in our ability to make progress for mankind.
Dans votre journée, vous allez sans le savoir utiliser toute une série de technologies qui ont été inventées par Solvay, que ce soit dans votre smartphone, dans votre shampoing, dans votre habitation à la maison.
That progress needs reinvention if we want to create a sustainable future for our children and their children.
Je vais tout reprendre depuis le début. Notre enquête, elle commence bizarrement avec une autre entreprise. 3M.
Des riverains de l'usine 3M sont invités à ne plus consommer les produits de leur jardin.
Les sols sont contaminés par des substances toxiques.
En 2021, l'usine américaine est responsable d'une pollution sans précédent à quelques kilomètres d'Anvers.
Un appel a été lancé à ne plus consommer les œufs à 15 kilomètres à la ronde. 1 million de personnes et plusieurs communes sont concernées.
Ce que 3M a rejeté dans l'environnement, c'est le PFOS. Il fait partie de la grande famille des PFAS. Je sais, c'est du jargon, mais je vais essayer de vous expliquer. Les PFAS sont des substances indestructibles. Une fois dans la nature, elles y restent pour des siècles. Elles résistent aux températures, elles repoussent l'eau. On les retrouve partout. Dans les poêles à frire, les vêtements imperméables, les emballages alimentaires ou encore les mousses anti-incendie. Et on leur a donné un surnom.
Ce sont des polluants qu'on a parfois qualifiés de polluants éternels.
Corinne Charlier est toxicologue au CHU de Liège. Et elle connaît très bien les effets des PFAS sur la santé humaine.
Donc dans les effets dont on est sûr, on sait qu'il y a un effet sur la fonction thyroïdienne, on sait qu'il y a une augmentation du cholestérol et on a vu des cancers du rein et des cancers des testicules. Et alors, pendant la grossesse, on a un bébé qui va naître avec un plus petit poids à la naissance quand la maman est exposée et on a aussi une moins bonne réponse à la vaccination.
Quand l'affaire 3M éclate en Flandre, je plonge dans le registre européen des polluants. C'est une grande base de données. Elle liste les rejets de plus de 30 000 entreprises sur tout le continent. Je fais une première découverte avec les perfluorocarbones. Désolé, encore un nom barbare. Ces polluants sont très proches des PFAS. Et 3M est bel et bien sur le podium européen des plus gros émetteurs. Mais là, surprise, tout en haut de la liste, il y a une usine qui supplante toutes les autres. Et de loin, elle appartient à Solvay.
Si on regarde les émissions de perfluorocarbones, je peux voir que celles de Solvay sont très hautes, en tête du classement.
Je parcours ces données avec Anne-Sophie Bakar, la directrice de Chemsec, une ONG suédoise.
Ce sont des quantités assez considérables qui sont relâchées dans l'environnement. L'usine de Solvay en Italie rejette plus de polluants que 3M en Belgique.
Ce n'est qu'un premier indice, mais c'est décidé. Avec l'équipe, je boucle mes valises, direction le nord de l'Italie. C'est la fin de l'hiver, il fait gris. Je découvre Spinetta Marengo à 1 heure de route de Milan. Un village de 6000 habitants, adossé à un pôle chimique de 1000 travailleurs. Un village dans le village, qui tourne 24 heures sur 24. C'est difficile à décrire, mais il y a à Spinetta comme une ambiance pesante. Un mal invisible. La première fois où je l'ai ressenti, c'est en croisant la route d'Alice Lenaz, une artiste peintre qui a grandi à Spinetta, à côté de l'usine.
C'est vraiment dramatique de décrire ce tableau.
Quand je la rencontre, elle vient d'enterrer son oncle quelques semaines auparavant. Il est mort d'une tumeur au cerveau. L'histoire d'Alice, c'est ça. Un destin jalonné de proches tombés malades, de manière inexpliquée.
Mon père a commencé à un moment donné à avoir du mal avec les escaliers. Ma tante, notre voisine d'en face, qui vit dans la même rue, elle avait aussi cette fièvre qui ne disparaissait jamais. Et ils ont décidé de faire des tests plus ou moins au même moment. Donc les résultats sont arrivés en même temps à nos familles, le même jour. Donc j'arrive à la maison. Je me souviens que ma mère m'a dit que les résultats étaient arrivés. Papa a un cancer. Va voir ton cousin et passe un moment avec lui. Et puis ce soir, on en parle. Donc je vais chez mon cousin, il ouvre la porte, on était tous les deux blancs. Et il m'a dit, vous avez appris? Et je lui ai dit, oui, j'ai entendu. Je parlais de mon père, mais lui, il parlait de sa mère. Car mon père a été diagnostiqué avec un cancer et sa mère avec une leucémie myéloïde aiguë. Par miracle, ma tante est toujours en vie. Mon père est mort. Depuis 2015, il était atteint d'un cancer du rein. On faisait le tour du cancer à l'hôpital. Je vais d'abord voir papa, puis tant que j'y suis, je vais voir ma tante et notre ami de la famille qui a quelque chose au ventre. Je lui rends visite dans le même service que ma tante. En revenant, je vais à l'hospice, qui est l'hôpital pour les malades en phase terminale. Alors je dis au revoir à une quatrième personne. et je rentre chez moi.
Je
vous laisse imaginer quand vous rentrez chez vous.
Come puoi percepire
quelle
il
perception
mondo.
Du monde vous avez.
Tutti hanno il cancro in quella famiglia.
Tout le monde a le cancer dans cette famille.
Perché il cancro diventa il ritmo.
Le cancer est devenu le rythme.
Ed è un, una brutta cadenza.
C'est une mauvaise cadence.
Alla quale intonarsi.
Sur laquelle on danse.
L'usine chimique aurait-elle un lien avec toutes ces maladies? Il est temps de s'intéresser à ce que fabrique Solvay à Spinetta Marengo. Ici, on produit des polymères spéciaux, le genre de composés légers et ultra-résistants, utilisés dans les voitures ou les avions. Ils les rendent moins lourds, moins énergivores, et donc plus propres, plus durables. En 2022, les polymères spéciaux représentent la plus grande part du chiffre d'affaires de l'entreprise belge. Plus de 3 milliards d'euros. Spinetta est tout simplement la poule aux œufs d'or de Solvay. Celui qui avait flairé le bon coup, c'est Alois Mikkelsen. L'ancien CEO de Solvay a acheté cette usine il y a plus de 20 ans.
Et je me suis rendu compte que le monde était en train de changer. Et j'avais toujours été frappé par l'automobile, en me disant, l'automobile change tous les 10 ans. Et c'est peut-être le secteur économique qui a le changement le plus rapide. Et quand il y a changement, signifie qu'il y a croissance. Et quand il y a croissance, il y a bénéfice. Ça a été très rentable, tout ça.
C'est-à-dire ?
Ben, on gagnait de l'argent. Les polymères spéciaux a toujours été l'activité la plus rentable de Solvay.
Il y a un revers à la médaille de ce marché florissant, les PFAS. Solvay les utilise. Ils n'ont pas de couleur, pas d'odeur, mais ils se répandent dans l'air et dans l'eau de Spinetta. Un kilomètre à l'est de l'usine, une énorme cascade se jette dans la rivière Bormida, des centaines de litres à la seconde.
Ça, c'est le point de décharge direct de Solvay dans la rivière. Ça vient de chez eux, donc ils sont forcément responsables.
Nous accompagnons Sarah Valsecchi. Cette scientifique fait partie du Centre national de recherche. Depuis 2008, elle prend régulièrement des échantillons des eaux de rejet de Solvay.
Nous les collectons et nous les analysons pour vérifier quels sont les composés perfluorés qui sont rejetés par Solvay en ce moment. Il s'agit donc principalement de PFAS et donc d'une traçabilité certaine de leur production. Nous les trouvons dans les œufs, dans les poissons, dans la végétation et dans le sol.
Alors qu'on parle PFAS au bord de la rivière, on reçoit de la visite. Les rangers, les gardes privés de Solvay, viennent nous contrôler sur un espace public.
Est-ce que tu peux arrêter d'enregistrer, s'il te plaît ? Non ?
Et notre correspondante en Italie, Valérie Dupont, va les remettre gentiment à leur place.
Quel est le problème ? Quel est le problème ?
Nous sommes ici parce que vous êtes sur une propriété... Enfin, c'est le point de rejet.
Alors, on a été bien gentils jusqu'à présent.
Oui, oui. Moi aussi.
Mais nous n'avons pas à vous expliquer ce que nous sommes en train de faire.
Ah, ok, on fait seulement de la surveillance, on surveille le point de rejet.
Nous respectons votre travail de surveillance, mais nous sommes des journalistes libres et nous faisons ce que nous voulons tant que nous ne sommes pas sur le territoire privé de l'entreprise, ce que nous n'avons pas fait. Ça va ? Il ne faut pas déconner quand même. Attends, une entreprise qui refuse de parler, qui refuse de nous donner des interviews et qui en plus...
T'envoie leur sbire.
Si vous voulez, on s'en va et on va à un autre endroit. Hein.
Après cet échange, les rangers vont nous prendre en filature à plusieurs reprises durant la semaine. Solvay semble redouter ces prélèvements scientifiques indépendants. Un des premiers à les avoir initiés, c'est Claudio Lombardi. Un homme de petite taille, barbu, casquette vissée sur la tête, cet ancien échevin de l'environnement nous emmène en voiture.
On va faire le tour des deux rues. C'est ici qu'on trouve les habitants les plus malades. C'est la rue Garibaldi. Nous sommes juste au dos de l'usine Solvay. C'est la zone où se trouvent les parties de l'usine les plus polluantes, du point de vue notamment des PFAS.
Dans les rues, on nous dévisage.
Les gens ont peur que leur maison perde sa valeur immobilière. Seulement, si nous filmons ici, maintenant, dans cette petite rue, ils sortent et s'en prennent parfois aux équipes de télévision.
Claudio Lombardi a un profil atypique. Au début des années 90, il était le directeur sportif de l'écurie Ferrari en Formule 1. Cet ingénieur est devenu le caillou dans la chaussure de Solvay, car il connaît tous les chiffres de la pollution. Pendant son mandat, il s'est même retrouvé face aux dirigeants de la multinationale.
Lorsque j'étais échevin, j'ai commencé à présenter des données qui m'ont été fournies par l'Agence de protection de l'environnement sur les enquêtes qu'elle avait menées sur la pollution de l'air. Je les ai présentés dans un rapport lors d'une assemblée publique à laquelle participaient des techniciens de haut niveau, dont le directeur de Solvay. Et quand j'ai commencé à présenter ces résultats, il s'est levé et il a quitté la pièce. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes continuaient à tomber malades et étaient même atteintes par des pathologies cancéreuses. Au cours des 10 dernières années, la situation sanitaire ne s'est pas améliorée. Cela signifie donc que même maintenant, il existe un danger considérable pour la santé des habitants.
Fin 2019, les craintes de Claudio Lombardi sont confirmées. Une étude scientifique montre que les riverains de l'usine font face à une augmentation du risque de développer certains cancers, des maladies cardiovasculaires ou des troubles neurologiques chez les enfants. Pourtant, la relation de cause à effet n'est toujours pas démontrée. Pour ça, il faudrait analyser le sang des habitants pour y trouver les polluants de Solvay. Mais bizarrement, ça n'a jamais été fait. Alors, puisque les pouvoirs publics ne le font pas, je décide de tenter le coup, mais pas tout seul. Un médecin sur place va nous aider. Rosie Gatti, c'est le genre de femme engagée, comme un cadeau tombé du ciel. Elle va réaliser bénévolement toutes les prises de sang.
En tant que docteur, je veux que mes patients, tous les patients, soient en bonne santé. Donc je ne veux pas qu'ils soient malades. S'il y a quelqu'un qui provoque volontairement une maladie ou fait en sorte que les gens ne sachent pas ce qui ne va pas, si je peux faire quelque chose pour éviter d'autres dommages ou si je peux faire quelque chose pour que l'entreprise arrête de faire du mal, en tant que médecin, femme et citoyenne, je ne vois pas pourquoi ne pas aider. Disponibilité totale et complète sur tout. Cela vaut toujours la peine de se battre pour quelque chose de bien dans ce monde.
Avez-vous travaillé à l'usine Solvay de Spinetta Marengo ou quelqu'un de votre famille a-t-il travaillé pour Solvay ?
Mon papa y a beaucoup travaillé.
Pendant ce temps-là, ma collègue journaliste Valérie fait remplir un questionnaire à chaque participant.
Vos habitudes alimentaires, est-ce que vous consommez du poisson ou des fruits de mer ?
Du poisson, oui, une fois par semaine.
On doit compiler un maximum de données. Au total, on a prélevé du sang sur plus de 50 habitants. 30 vivent à moins d'un kilomètre de l'usine et 20 autres vivent dans la ville voisine d'Alessandria. Ils serviront de groupe témoin pour faire des comparaisons.
Je me suis toujours demandé si nous avions ces substances dans notre sang. Alors, j'ai eu cette opportunité. J'ai dit que c'était une bonne occasion de savoir, de vérifier, parce que je suis née ici. J'ai toujours été là. Alors, je me demande si nous aussi, nous avons ces choses dans le sang.
Les trouver n'a pas été simple. Car faire une prise de sang, c'est mettre en doute la parole de Solvay. C'est mettre en doute la main qui nourrit bon nombre des habitants. Pour recruter des volontaires, nous avons l'aide d'une association.
Ce besoin d'un dépistage pour la population était une des demandes que nous avions en tant que comité depuis 2 ans.
Viola Serrada est membre du Comitato Stop Solvay. Un comité qui veut mettre fin à des décennies de pollution.
Et je veux aussi donner aux gens la possibilité de savoir, de prendre conscience, parce que c'est parfois difficile. Je comprends que la pollution invisible n'est pas immédiatement perceptible. On n'en tombe pas malade après quelques mois. Cela vous prend des années.
Après 3 jours de prise de sang, les échantillons sont envoyés au CHU de Liège. Le laboratoire de toxicologie va identifier les PFAS les plus connus. Il faudra attendre 5 mois avant d'avoir les résultats. Il est temps de revenir au début de l'histoire. Vous vous souvenez ? J'étais à l'Assemblée Générale de Solvay avec 3 collègues. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour rencontrer directement les patrons. Ils sont là, à portée de main, J'écoute leur discours.
Quand on parle de durabilité, les actes comptent plus que les mots. Nous voulons que nos employés rentrent chez eux chaque jour sains et saufs. La santé et la sécurité de nos employés et communautés restent notre première priorité.
Dans cette grande messe, je dois réussir à poser une question. Mais chaque membre de notre équipe est marqué à la culotte par le service de sécurité. Les messages pleuvent sur notre groupe WhatsApp.
J'ai un gars de la sécurité à côté de moi. Toi, Mikali, tu en as deux sur ta droite et trois derrière Manu. Sorry, j'ai voulu filmer et il m'a capté. J'ai dû arrêter.
Vous pensez peut-être que je suis parano. Pourtant, je ne suis pas le seul à me poser des questions sur la sécurité. Un actionnaire habitué va s'en plaindre.
Pourquoi un tel déploiement de sécurité ? Il y a au moins trois équipes de quatre policiers qui sont à l'extérieur du bâtiment et qui surveillent ce qui se passe aussi. En plus, il y a au moins une vingtaine de gardes de sécurité à l'intérieur. Alors expliquez-moi effectivement ces mesures de sécurité qui sont totalement délirantes. Je ne comprends pas.
Tout d'abord, les assemblées générales sont parfois la cible de moyens de communication qui n'ont pas toujours à voir avec l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Et donc, deuxièmement, nous sommes dans un lieu public aussi qui a...
J'attends mon tour pour poser une question. J'ai le ventre vide, il joue la montre et l'usure. Mais mon collègue Santos, le réalisateur, est passé inaperçu. Son smartphone est braqué sur moi. Après plus de 4 heures d'attente, c'est enfin mon tour. Et il filme toute la scène.
Merci, bonjour, je m'appelle Emmanuel Morimont, je suis journaliste à la RTBF et j'ai acheté une action afin de pouvoir vous poser une question. Question qui concerne votre usine de Spinetta Marengo en Italie. Il faut savoir qu'on s'est rendu dans ce village où nous avons rencontré des citoyens inquiets. Est-ce que vous pouvez rassurer ces populations ? Est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui, droit dans les yeux, on ne vous a pas contaminé avec ces PFAS d'ancienne génération ou de nouvelle génération ?
Ben écoutez, depuis que nous sommes là, nous faisons des analyses et des screenings médicaux sur notre personnel dans Spinetta. Okay?
C'est un Italien qui me répond. Augusto Di Don Francesco est le président de l'unité des polymères spéciaux pour Solvay.
C'est lui, depuis qu'on a pris l'usine, donc on a des statistiques et maintenant sont une vingtaine d'années, tous les années. Y compris des analyses très très détaillées. Toutes ces analyses démontrent bien qu'il n'y a pas de maladies professionnelles liées aux substances à lesquelles nos employés sont exposés. Et nous, on fait les choses bien.
Nous n'aurons pas accès aux statistiques de Solvay pour des raisons de confidentialité. 4 mois plus tard, notre rapport d'analyse est enfin prêt. Je retourne en Italie accompagné par des scientifiques belges, dont Corinne Charlier, la toxicologue du CHU de Liège. Avec ma collègue Valérie Dupont, on réunit les citoyens dans la salle paroissiale de Spinetta Marengo. C'est le grand jour, celui de l'annonce des résultats aux volontaires de la prise de sang. Nous leur expliquons ce que sont les PFAS.
Une fois qu'ils sont dans le corps, ils y restent très longtemps. On ne sait pas les faire ressortir, il n'y a pas de moyen de les enlever du corps.
Dans le sang, les scientifiques ont identifié du PFOA, un des PFAS les plus toxiques. Ils ont aussi comparé les riverains de l'usine de Spinetta à un groupe témoin vivant dans la ville voisine d'Alessandria.
Et donc la contamination des personnes qui habitent Spinetta, qui ont participé à l'étude, est plus importante, significativement plus importante qu'Alessandria pour le PFOA. Les trois facteurs qui influencent de manière statistiquement significative la contamination en PFOA, c'est résider à Spinetta, c'est avoir travaillé chez Solvay, et c'est l'âge. Donc plus on est âgé, plus on a une contamination importante. Les personnes les plus exposées sont jusqu'à 10 fois plus contaminées par rapport à ceux qui habitaient Alessandria.
Il est évident que ça signifie que l'exposition est importante, trop importante, et qu'il faut essayer de la réduire.
Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un effet sur la santé. Ça veut juste dire qu'on fait partie des gens les plus contaminés.
Dans l'Assemblée, les résultats font réagir les citoyens.
Ma conclusion, c'est qu'une administration communale qui ne fait pas une recherche à grande échelle, c'est une administration irresponsable.
Je tenais pour acquis qu'en tant que citoyen d'un pays démocratique, je devais savoir ce qu'il produisait devant chez moi. Je ne savais pas qu'une entreprise chimique comptait davantage pour l'État que la santé d'un citoyen.
Ça vous fait peur d'entendre ces choses ?
Un peu, oui. Un peu, oui.
parce que de toute façon, on a grandi à Spinetta. Et donc penser que pour ma santé, je dois partir, cela me rend malade.
Ma plus grande inquiétude concerne les enfants, car si je sais ce que j'ai en moi, j'aimerais aussi comprendre pour les enfants et les petits-enfants ce que je laisse génétiquement de ces substances.
Je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez fait. Cela nous est très utile. Car jusqu'à présent, nous parlions beaucoup, mais il n'y avait pas de résultat. Avec ces résultats, nous sommes beaucoup plus forts. Notre bataille peut commencer.
Le soir même, les scientifiques belges vont rencontrer plusieurs médias italiens. Le lendemain, les résultats font la une de la presse dans le Piémont. Une semaine plus tard, les autorités sanitaires italiennes prennent une décision. Elles vont tester à large échelle les habitants de Spinetta. Lino Balza, un ancien travailleur de Solvay, va porter plainte contre la multinationale.
Ça pourrait être une hécatombe. Parce qu'ici, il y a un poison invisible, insipide et inodore. Donc, c'est une arme chimique, disons, parfaite. Parce qu'elle ne fait pas tomber les murs. Elle fait juste tomber les hommes.
Il est impossible de dire quels seront les effets sur la santé des riverains de l'usine Solvay à Spinetta. Mais ces nouvelles données scientifiques représentent un espoir, celui de rendre visible une pollution toujours niée par la multinationale.
Nous sommes de retour en studio avec nos invités. Corinne Charlier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service au laboratoire de toxicologie clinique du CHU de Liège. C'est votre équipe qui a mené les analyses sanguines sur les riverains de l'usine italienne. Natacha Cingotti est également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du programme sur la santé et les produits chimiques pour l'ONG, l'Alliance pour la santé et l'environnement. Et vous représentez cette ONG auprès des institutions européennes. Ces produits chimiques éternel, c'est PFAS, on en parle beaucoup ces derniers temps dans différents dossiers. C'est un enjeu véritable de notre époque.
Oui, tout à fait. Les enjeux réglementaires sur les PFAS, aujourd'hui, cristallisent beaucoup d'attention politique, médiatique. Les autorités européennes sont en train de plancher sur une restriction extrêmement large qui comprendrait tout le groupe des PFAS. C'est quelque chose d'absolument inédit. On n'a jamais vu une restriction de cette envergure, puisqu'elle couvrirait environ 10 000 substances à travers tous les usages industriels et consommateurs. Donc le travail vient de commencer au mois de février et on s'attend à ce que ça continue jusqu'au moins 2025 pour une restriction qui, au mieux, pourrait rentrer en vigueur en 2026-2027.
On va y revenir, évidemment, Corinne Charlier. C'est un véritable enjeu de l'époque, on l'entend. Il faut être à la hauteur parce qu'il y a de vrais risques environnementaux, mais également pour la santé.
Il y a des risques environnementaux parce que ces molécules sont extrêmement stables, donc elles s'accumulent et on va les retrouver dans tous les compartiments de l'environnement. Mais il y a également des risques pour la santé, puisqu'il y a toute une série d'effets, par exemple sur le fonctionnement thyroïdien, sur l'accumulation de cholestérol, sur la fertilité. Et parmi ces PFAS, certains sont accusés d'être des perturbateurs endocriniens.
Alors, on va revenir sur cet enjeu de la santé avec vous, Emmanuel Morimont, donc journaliste à Investigation. On s'est posé la question, évidemment, de l'impact de ces produits sur la santé de ceux qui vivent tout près de ces usines Solvay. Pour ça, il fallait réaliser des prises de sang pour voir ce qui arrivait réellement dans les organismes des riverains. Comment est-ce que vous avez fait pour réaliser une cinquantaine d'analyses sanguines ?
Oui, alors c'était un projet assez fou de pouvoir réaliser 50 prises de sang sur les habitants. Vous imaginez bien un journaliste belge qui ne parle pas un mot d'italien. C'était difficile d'instaurer la confiance. Et donc, c'était très important de pouvoir collaborer avec Valérie Dupont, notre correspondante sur place. Elle n'y croyait pas au début, mais on y est parvenu. Et puis, on a eu l'aide aussi d'une médecin sur place qui a réalisé bénévolement ces prises de sang. Donc, on a été chanceux sur ce coup-là. Et puis, on a été accompagné par des scientifiques sans qui il était impossible de mener ce projet. Donc là aussi, on était chanceux d'avoir à la fois le service de toxicologie clinique du CHU de Liège, mais aussi le département de chimie de l'Université de Liège qui ont réalisé un travail colossal et qui sont allés défendre leur travail en Italie et l'expliquer aux citoyens là-bas sur place. Donc c'est une démarche qui est vraiment porteuse de sens et qui apportait un élément nouveau, à savoir que les gens étaient bel et bien contaminés sur le terrain.
Valérie Dupont, vous en parliez, notre correspondante en Italie est avec nous aussi dans cette émission, en liaison par téléphone. Valérie, bonjour. On l'a entendu, Manu vient de l'expliquer, ben voilà, tout le travail qui avait été effectué pour mener à bien cette enquête, une enquête qui a aussi fait bouger un peu les lignes sanitaires en Italie. En 2022, à la suite de cette enquête, elles avaient annoncé un large biomonitoring de la population. Où est-ce qu'on en est pratiquement un an plus tard ?
Exactement. Il faut savoir que lorsque l'enquête a été publiée, il y avait justement un changement d'autorité politique pour la commune d'Alessandria et le nouveau maire avait promis en effet de faire pression pour que la région organise ce biomonitoring. Alors malheureusement, il n'a pas encore été organisé et les habitants de Spinetta Marengo sont évidemment très déçus puisque le ministre régional de la Santé n'a pas vraiment donné les ressources financières pour faire une enquête approfondie. Il a juste donné un petit budget pour commencer à penser à une commission qui pourra peut-être organiser un biomonitoring. Par contre, il y a un projet de l'ASL qui est l'association locale, enfin l'organisation sanitaire locale qui va, elle, organiser un biomonitoring sur les habitants de Monte Castello, qui est une petite commune non loin de l'usine Solvay, où là, le puits de l'eau avait été contaminé. Donc ça, c'est pour le biomonitoring. On est un peu encore en haute mer, je dirais. Par contre, il y a eu des services vétérinaires de la région qui ont continué à faire des analyses sur les poissons, les œufs et les légumes des potagers. Et ils viennent de rendre leurs résultats. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'ils ont trouvé en effet des PFAS et du C6O4 dans les poissons du Bormida, la fameuse rivière qui coule tout près du site Solvay. Et puis, ils ont trouvé des légumes de potager à Spinetta Marengo fortement contaminés au C6O4, notamment un chou qui a été fortement contaminé et eux soupçonnent que c'est contaminé par l'air. Et donc, en effet, il y a quand même eu une continuation par rapport à cette enquête, mais malheureusement, pas sur le sort de la population et les habitants de Spinetta Marengo en sont fortement déçus.
Corinne Charlie, quand vous entendez ces nouvelles démarches qui ont été entreprises en Italie, ces analyses notamment sur des choux, des légumes, des poissons, ça vous étonne les résultats dont nous parle Valérie ?
Non, c'est tout à fait évidemment dans la même ligne que ce qu'on avait pu observer au moment de l'enquête. Et évidemment, on ne peut que regretter le retard pris par le biomonitoring. Seul un biomonitoring avec un dosage de ces produits dans le sang permet d'établir la contamination humaine. Donc c'est quand même l'étape ultime et il n'y a aucune raison de la retarder autant.
Valérie Dupont, du côté de l'Italie, on sait que Solvay avait été condamné par le passé pour avoir aggravé une pollution historique lorsqu'elle est devenue propriétaire de ce site de Spinetta Marengo. Un procès qui est allé jusqu'à la Cour suprême en Italie, mais ça ne concernait pas les PFAS. Est-ce qu'aujourd'hui, un deuxième procès se profile pour Solvay en Italie ?
Oui, un deuxième procès se profile car le procureur de Alessandria a décidé de renvoyer devant les tribunaux de nouveau Stefano Bini et Andrea Diotto qui étaient donc les dirigeants du site de Solvay. Andrea Diotto est encore le directeur du site actuellement et il les renvoie devant les tribunaux parce qu'il considère qu'ils n'ont pas mis en action la décontamination pour la pollution précédente pour laquelle ils avaient déjà été condamnés parce qu'il y avait du chrome hexavalent et d'autres produits comme de l'arsenic, etc. dans les terres de Solvay et qui avaient donc contaminé l'eau et l'air autour du site. Et donc le procureur estime qu'ils n'ont pas fait ce que la Cour de cassation avait demandé de faire, c'est-à-dire de décontaminer. En plus, le procureur ajoute qu'il y a une nouvelle pollution avec les PFAS de nouvelle génération, par exemple le C6O4 ou l'ADV, dans l'eau du puits ou dans les nappes phréatiques de la zone. Et c'est pour ça qu'il a demandé un nouveau procès qui devrait normalement commencer dans les prochains mois. J'ai appelé l'avocat hier qui m'a confirmé que le procès devrait se tenir soit en 2023 ou en 2024.
Merci beaucoup Valérie. Alors après la publication des résultats de ces prises de sang que nous avons réalisées, Emmanuel Morimont, dans le cadre de cette enquête pour investigation, quelle a été la réaction de Solvay au vu des résultats ?
Solvay a publié directement un communiqué en disant qu'ils avaient déjà procédé à 5000 analyses sur une vingtaine d'années sur ses propres travailleurs et qu'il n'y avait pas de problème clinico-toxicologique sur ces travailleurs. Donc ça, c'était la position officielle de Solvay.
Alors Solvay qui dit aussi donc avoir fait ses propres analyses, vous avez essayé de les obtenir, ces analyses, ça n'a pas été possible durant l'enquête, mais on les a finalement trouvées quelques mois plus tard, ici au début de l'année 2023.
Ouais, il faut savoir que Solvay a mandaté une université italienne pour compiler des données sanguines de 2004 à 2021. Et donc c'est le laboratoire de toxicologie de l'université de Milan qui a réalisé cette étude qui était financée par Solvay. Et donc dès que je l'ai reçue en janvier 2023, au moment où elle a été publiée, je l'ai transmise directement à différents scientifiques, dont Corinne Charlier qui est ici avec nous, pour avoir un petit peu son avis sur cette étude.
Quand vous avez vu Corinne Charlier, je rappelle, vous êtes toxicologue au CHU de Liège, quand vous avez vu cette étude de l'université de Milan, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que les travailleurs sont contaminés au PFAS?
Ah oui, ça pourrait être contaminé, on peut dire qu'ils le sont. Donc en fait, c'est réel qu'il y a eu un très très grand nombre de prélèvements et d'analyses qui ont été faites dans le cadre de ce suivi sur de très très nombreuses années. Ils ont dosé à la fois les anciens perfluorés comme le PFOA, mais également les nouveaux qu'on vient d'évoquer comme l'ADV et le C6O4. C'est vrai également qu'il y a une diminution de la contamination au fil du temps, c'est-à-dire qu'on voit à partir des années où on a arrêté la production par exemple du PFOA, que le sang des travailleurs est de moins en moins contaminé. Il n'en reste pas moins que les travailleurs sont toujours particulièrement contaminés et par exemple par le PFOA, on voit que la médiane du taux sanguin de ces travailleurs en 2021, elle est encore de 119 nanogrammes par millilitre ou microgrammes par litre, c'est la même chose, ce qui reste 10 fois supérieur à la norme allemande HBM2 qui est de 10 microgrammes par litre. Donc en effet, on assiste à une diminution importante de la contamination. Pour comparaison, la médiane en 2014, pour la même molécule, elle était à 2900. On a une belle diminution, mais la contamination des travailleurs reste importante. Et depuis les années 2009 et 2012, on voit apparaître dans leur sang l'ADV et le C6O4.
Alors moi, j'étais allé à l'Assemblée Générale poser des questions et un des patrons italiens de Solvay m'avait répondu qu'il n'y avait pas de maladie professionnelle liée à l'exposition de ces substances. Donc on ne pouvait pas lier ces substances avec des maladies professionnelles. Est-ce que finalement, cette étude, elle répond de la toxicité de ces substances? Est-ce qu'on peut voir dans cette étude si les travailleurs de Solvay tombent souvent malades ou pas?
Mais non, ici, c'est simplement une étude qui rapporte la contamination des travailleurs. Donc on a recherché les molécules dans le sang des travailleurs, mais évidemment on n'a pas ici leur bilan de santé. Donc on ne peut pas mettre en rapport un taux de molécules dans le sang avec une éventuelle pathologie. Les pathologies sont très vastes en rapport avec ces molécules. Ça peut être le diabète, les problèmes de fertilité, l'augmentation du cholestérol. Il faudrait disposer de tous ces chiffres et de toutes les valeurs pour pouvoir établir le lien que vous évoquez.
Et ça n'a pas été fait dans cette étude?
Ce ne l'est pas, non.
Alors, on a évoqué le C6O4, l'ADV, c'est ce qu'on appelle des PFAS de remplacement, c'est-à-dire des PFAS qui ont remplacé d'autres PFAS qui étaient interdits. Mais ces nouveaux PFAS, eux, ils ne sont pas réglementés. Natacha Cingotti, est-ce qu'il y a un vide juridique aujourd'hui en Europe autour de ces substances chimiques?
En fait, le problème à l'heure actuelle d'un point de vue réglementaire, c'est que le système européen sur les substances chimiques est basé substance par substance. Donc on avance vraiment à petits pas. On en a effectivement quelques-unes qui sont réglementées, comme le PFOA, le PFOS, qui sont relativement bien connues désormais. Mais le problème, c'est que ce système ne permet pas effectivement d'aborder ces substances par groupe. Et donc jusqu'à maintenant, dès qu'une substance a été réglementée, les industriels les ont remplacées par des substances de nouvelle génération qui étaient parfois beaucoup moins documentées, mais pas moins toxiques. Et donc ce sont exactement les tendances qu'on voit à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que le projet actuel de restriction des PFAS qui est en cours d'élaboration, il est révolutionnaire à beaucoup d'égards, puisque un tel effort de réglementation à une telle échelle, c'est du jamais vu d'un point de vue européen, et ce serait effectivement une révolution pour le marché des substances chimiques en Europe.
On parle de les réglementer en tant que famille de substances plutôt que individuellement l'une après l'autre.
Tout à fait, voilà. Donc la réglementation toucherait environ 10 000 substances, y compris les fluoropolymères, les fluoropolyéthers, que les industriels essayent de dire voilà, ne correspondent pas au même profil de toxicité que les vieux PFAS, ce qu'on appelle les vieux PFAS qui sont aujourd'hui réglementés, mais qui, on le sait, sont utilisés comme substances de substitution et qui aujourd'hui se retrouvent à travers tous les secteurs et à travers tous les produits de consommation. Donc c'est vrai que d'un point de vue d'exposition consommateur ou professionnel, aujourd'hui on est dans un système qui est incontrôlable puisque effectivement ces substances sont partout.
Vous parlez au conditionnel, ça veut dire qu'on en est où dans le processus de réglementation ?
On est vraiment au tout début du processus, c'est-à-dire que vous avez un groupe d'États qui a préparé un projet de restriction, qui est en train de le soumettre à divers comités scientifiques au niveau européen, à l'Agence européenne des substances chimiques. Et là, on est aux prémices de ce processus où le premier projet a été soumis et où on va rentrer dans les mois qui viennent dans les discussions vraiment difficiles qui seront les discussions sur les potentielles dérogations que veulent les industriels. Donc vous vous en doutez qu'ils risquent de se multiplier au fil des mois.
Oui, j'imagine que l'industrie, voilà, préfère ne pas être trop limitée. Il y a un lobbying intense qui se joue du coup en ce moment pour essayer d'obtenir le moins de restrictions possible.
Effectivement, aujourd'hui, ce que vous voyez en Europe, c'est une mobilisation très très forte à travers secteurs, hein, notamment tout ce qui est l'automobile, l'aérien, les semi-conducteurs, l'électronique, tout ce qui est aussi l'énergie. L'idée des industriels, c'est de dire voilà, ces PFAS sont essentiels pour le fonctionnement de la société. Un argument qu'on voit émerger aussi, c'est de dire ils sont essentiel pour la transition énergétique, la transition verte, ce qui est tout à fait contestable, et donc d'essayer aussi de faire passer un message selon lequel en fait tous les PFAS ne sont pas toxiques, et donc essayer d'essaimer cette réglementation qui est en train d'émerger.
Corinne Charlier, votre avis, vous, en tant que toxicologue, est-ce que c'est important d'avoir une législation forte? C'est urgent au vu des risques environnementaux ou pour la santé?
Oui, je pense que c'est urgent, et si cette législation pouvait aboutir, ce serait vraiment en effet, une grande première, je pense. Ce sera, je le pense, extrêmement difficile, mais oui, c'est absolument urgent.
On considère généralement que plus on est exposé à un produit chimique toxique, plus les effets seront importants pour la santé. Est-ce que c'est vraiment la dose qui fait le poison ?
Non, alors ça c'est vraiment une vieille notion. Maintenant, en toxicologie, on sait qu'avec des molécules qui ont des effets perturbateurs endocriniens, comme c'est le cas pour les PFAS, mais aussi avec des cancérogènes et d'autres produits, on ne peut plus dire que c'est la dose qui fait le poison. La seule présence de la substance dans l'organisme augmente le risque que l'on a de développer certaines pathologies. Et donc la seule façon d'éviter cela, ce n'est pas de fixer un seuil, ce n'est pas de fixer une norme, c'est en effet d'interdire la substance.
Alors on parle beaucoup évidemment de Solvay, de ces nombreuses usines qui produisent des PFAS et qui ont voilà créé pour certaines en tout cas ces pollutions aux produits chimiques éternels. Mais Natacha Chingotti, ça ne concerne pas que Solvay cette problématique.
Évidemment, comme on le disait, ces substances sont extrêmement utilisées à travers sites industriels et à travers usages consommateurs aujourd'hui en Europe. Donc en réalité, on a énormément de sites contaminés. D'ailleurs, une enquête journalistique récente a montré qu'on avait 17 000 points de haute contamination aujourd'hui en Europe. Donc ce qu'on voit, c'est effectivement plusieurs sites, plusieurs communautés à travers l'Europe se mobiliser en réalisant qu'elles ont été très très exposées. Nous, on a été en contact avec d'autres communautés en Italie, en Vénétie, en Suède, à l'heure actuelle où on a plusieurs procédures légales au niveau de la Cour suprême où les résidents ont été très très exposés par des mousses incendies qui venaient de bases militaires près de leur zone d'habitation. Donc effectivement, plus on cherche ces substances, plus on les trouve et plus on se rend compte aussi qu'on a énormément de communautés à travers l'Europe qui sont fortement exposées.
Ça a été le cas en Belgique aussi. On peut citer le cas de l'usine 3M à Zwijndrecht, en province d'Anvers. Emmanuel, on se rend compte que c'est une problématique réelle, mais qu'il y a des avis qui ne sont pas toujours partagés. Lors de la commission d'enquête organisée au Parlement flamand, justement sur ce scandale 3M en province d'Anvers, on se rend compte que les effets sur la santé, ils sont parfois niés.
Oui, donc la vice-présidente de 3M, Rebecca Dieter, s'était venue devant les parlementaires flamands et elle avait déclaré, je cite, « Les preuves scientifiques ne permettent pas d'établir que les PFAS ont des effets néfastes sur la santé humaine. » Donc ça, c'est une stratégie aussi, je pense, de nier l'évidence. Et je ne sais pas comment vous entendez ça, vous, en tant que toxicologue. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas de lien démontré ou est-ce qu'il y a une documentation qui existe?
Alors c'est un argument qui est souvent utilisé et qui fait d'ailleurs partie de la définition de la Commission européenne sur les produits perturbateurs endocriniens, puisque là aussi, en plus d'autres critères, il faudrait démontrer un lien entre la présence du produit dans le sang et la toxicité, la maladie qui se développe. Alors ça, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'on parle ici évidemment de toxicité à long terme. Hein. On n'est pas dans l'exposition aiguë. Donc c'est évidemment très très compliqué d'établir ce lien. Et on peut quand même dire aujourd'hui que les scientifiques s'accordent sur toute une série d'effets sur la santé qui sont liés à l'exposition au perfluoré.
Alors on a parlé réglementation, interdiction, mais est-ce qu'on peut parler aussi solution? Est-ce qu'il y a autre chose qui existe que ces substances-là pour fabriquer encore nos poils pour cuisiner, nos voitures ou nos produits cosmétiques? Est-ce qu'il y a des vraies alternatives, Natacha Chingotti?
Alors, quand on parle d'alternatives, je pense qu'il faut parler à deux niveaux. Il y a le remplacement produit par produit. Donc effectivement, quand on pense aux poils anti-adhésifs, on peut imaginer utiliser des poils en inox, des poils en fonte, hein, qui n'ont pas ce genre de revêtement. Après, quand on rentre dans la question de la substitution au niveau industriel, pourquoi est-ce qu'il y a un tel lobbying, une telle résistance à l'heure actuelle? C'est que ça pose des questions fondamentales sur la question de la façon dont on produit et la façon dont on consomme. Effectivement, et c'est ça qui va être le débat phare dans cette grande restriction qui est en train d'émerger, c'est que si on veut vraiment réglementer une famille de substances à l'échelle de 10 000 substances, il faut vraiment se poser la question de quels usages de ces substances, sachant tout ce qu'on sait sur leur persistante et leurs effets sur la santé, lesquels sont vraiment essentiels pour le fonctionnement de la société aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement politique, extrêmement contentieux. Et donc, effectivement, quand on parle de remplacement, c'est pas toujours une alternative ou un produit pour un autre, surtout au niveau industriel.
C'est la fin de cette investigation. Merci à nos invités, merci à Amaury Boucher pour la réalisation de ce podcast et merci à vous qui nous écoutez.